On ne se pose pas assez de questions, non? Allez, bienvenue à toutes et tous dans Philotech, le rendez-vous jus de cerveau de Madinès. Ici Calvin Repers, en compagnie d'invités d'exception, pour disserter sur une question simple. Mais vous le savez, les questions les plus simples amènent souvent les réponses les plus complexes. On retourne maintenant les feuilles et on découvre le sujet du jour. Pardon à tous les traumatisés du bac de philo. Et voilà notre problématique, le numérique est-il beau? Et comme je ne pourrais pas répondre sans anti-sèche, je triche et je demande aux experts. J'ai nommé Fanny Lacoubet, conseillère en art numérique et spécialiste des NFT, le crypto-artiste Lapin Mignon et Jean-Baptiste Costa, directeur de la publication du magazine Beaux-Arts. Merci à vous d'avoir répondu présent.
Merci Calvin pour l'invitation et bonjour à tous.
Merci de nous avoir.
Bonjour, merci.
Et comme on ne part pas à la guerre sans armes, on ne disserte pas sans plan. Et je vous vois venir, chers auditeurs et auditrices. Non, non, on ne fait pas thèse, antithèse, synthèse. Si la réponse est dans la troisième partie, à quoi bon faire les deux premières? On est plus malin que ça ici. La première question à se poser, c'est qu'est-ce que le beau? Emmanuel Kant disait, c'est ce qui plaît universellement sans concept. Mais ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Alors Jean-Baptiste Costa, vous êtes directeur de la publication du magazine Beaux-Arts. Vous devez le savoir, vous. Qu'est-ce que le beau?
Si je savais, je serais un homme heureux, je pense. Non, le beau, c'est une question qui est compliquée, notamment dans le domaine de l'art. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas le critère qui définit le jugement ou l'appréciation de l'art tel qu'on l'a aujourd'hui. L'émotion peut être un de ces critères, et donc l'émotion esthétique. Mais le beau, voilà, c'est plus la même façon aujourd'hui dont on juge une œuvre d'art. Je vais prendre notre point de vue de Beaux-Arts en tant que média, avec notre magazine, avec notre site beauxarts.com. Notre rôle, c'est pas de dire aux gens voici ce qui est beau, malgré notre nom, c'est paradoxal. C'est plutôt de dire voici ce qui est significatif, voici ce qui est important, et on va vous expliquer pourquoi. On va vous emmener dans cette histoire, dans ce récit, pour vous faire comprendre pourquoi. Et ça, à travers vraiment toute l'histoire de l'art, on va repartir de plus loin possible jusqu'à l'art le plus contemporain, et donc l'art numérique. Et on va essayer d'expliquer à nos lecteurs et à l'audience la plus large possible. Qu'est-ce qui est important dans l'art d'hier, dans l'art d'aujourd'hui, et c'est pas forcément ce qui est beau.
D'accord. Vous direz que les critères d'appréciation ont changé du coup.
Je sais pas s'ils ont changé. Je sais pas si ça a toujours été le beau. C'est-à-dire qu'il y a probablement des périodes de l'histoire où c'était le beau, mais il y a des périodes où c'était la technique. C'est-à-dire que c'était la technique la plus parfaite qui était considérée comme l'art le meilleur. Des moments où c'était ce qui choquait le plus, qui était considéré comme l'art le meilleur dans les périodes récentes de l'art contemporain. C'est peut-être moins le cas aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose qui évolue. Il n'y a pas forcément de notion de progrès vers le beau ou depuis le beau. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est des critères qui évoluent.
Oui. Donc l'art contemporain n'a pas forcément le beau en ligne de mire, d'ailleurs l'art en général. Il pourrait aussi susciter d'autres émotions ou d'autres réflexions. On va passer à Lapin Mignon, déjà parce que tout le monde se pose la question, pourquoi avez-vous choisi ce nom? Et ensuite, que souhaitez-vous transmettre à travers vos œuvres? Diriez-vous que votre art cherche le beau en particulier?
Alors, Lapin Mignon, alors tout d'abord, c'est un peu parti d'une blague il y a à peu près 12 ans où en fait j'avais moi-même un lapin et du coup je cherchais un surnom et avec des amis on avait rigolé avec Lapin Mignon, donc le nom est resté. Et pour moi, ça me permettait surtout d'avoir un pseudonyme, puisque à l'époque, j'avais voilà, une carrière toute tracée et l'art était pour moi quelque chose, un hobby sur le côté. Donc, je voulais vraiment détacher ma vie de tous les jours et mon hobby dans l'art, d'en faire voilà, quelque chose de plus fort et surtout détaché de mon quotidien. C'était un peu ma bulle, mon oxygène. Donc, est-ce que je recherche à faire le beau dans mon travail? C'est compliqué parce qu'en fait, et on va en venir par rapport au numérique, mais il y a une recherche de l'esthétisme dans le sens, comme Jean-Baptiste le disait, dans le sens de la recherche de l'émotion. L'esthétisme en fait va venir en fait faire vibrer une certaine émotion chez moi, et du coup c'est cette recherche là que voilà qui est dans tous mes travaux. Et pour moi la digitalisation, on va en parler encore plus tard, mais c'est ce qui va me pousser, c'est ce qui va pouvoir me voilà de donner encore plus d'outils pour atteindre quelque chose un petit peu plus avec des couleurs qu'on ne retrouverait pas ailleurs, avec des animations, du mouvement qui me parle beaucoup et qui fait éveiller beaucoup d'émotions chez moi et que j'espère transmettre dans mon travail.
D'accord, donc c'est toutes les techniques du numérique qui en fait vous intéressent, qui vous permettent de dépasser un peu l'art traditionnel.
Exactement.
Fanny Lacoubet, vous accompagnez des institutions, des entreprises ou des collectionneurs privés dans le monde des NFT et de l'art contemporain depuis maintenant 14 ans. Comment vous avez vécu de l'intérieur l'arrivée très récente finalement des NFT sur le marché de l'art? Est-ce que vous diriez que l'arrivée des NFT a tout changé?
Alors, d'abord, un disclaimer sur les 14 ans. Il y a 14 ans, les NFT n'existaient pas. J'étais avant les NFT dans ce qu'on appelle maintenant le monde de l'art et la tech. Et en fait, la blockchain a un petit peu tout chamboulé, je dirais, changé à voir dès 2017-2018, quand le marché de l'art, en fait, s'est rendu compte que cette nouvelle technologie et ce qu'elle pouvait apporter s'alignait sur beaucoup de problèmes que le marché de l'art avait rencontré depuis des années et des centenaires, à savoir des problèmes de provenance, d'authenticité, de droit de suite aussi pour les artistes. Donc de 2018 à 2021, je dirais, ça a été beaucoup plus centré sur des solutions techniques pour les acteurs du marché de l'art. En 2021, avec l'arrivée de la fameuse vente Beeple chez Christie's, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça a donné en fait un nouvel outil aux artistes numériques pour s'exprimer devant un public, devant une audience plus élargie qu'avant, pour leur permettre voilà, de vendre, d'échanger, de sécuriser leurs œuvres numériques, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Donc c'est ça vraiment qui, pour moi, a été vraiment l'innovation majeure pour les NFT, pour les artistes numériques.
Donc, comme le dit Fanny, l'art contemporain, enfin en fait les NFT, l'art numérique fait un peu sensation depuis 2021. Et la communication elle-même s'est intensifiée autour du crypto-art, même si celui-ci au final ne représente que 16% du marché des NFT. Jean-Baptiste, est-ce que l'émergence du crypto-art a influencé la ligne éditoriale de votre magazine? Est-ce que vous y consacrez plus de pages? Et quels sont les discours des artistes et des critiques d'art sur le sujet?
Alors la ligne éditoriale, je dirais que non, parce que c'est vraiment l'ADN de ce qu'est Beaux-Arts Magazine, d'être un magazine qui explore l'art dans toute sa profondeur depuis le début. On va parler de ce qui est incroyable en art pariétal et en art très contemporain. Donc ça, il n'y a pas de raison de changer cette ligne-là. C'est vraiment ce que les lecteurs viennent chercher chez nous, c'est la promesse qu'on leur fait. Et la promesse, le pendant de cette promesse, c'est de le rendre disponible au plus grand nombre avec un ton et une manière de le raconter qui soit accessible, exigeante mais accessible. Donc de ce point de vue-là, non, la ligne éditoriale n'a pas changé. Après, ce qui est certain, c'est que ce mouvement de marché, ce mouvement médiatique très très fort qu'il y a eu autour des NFT comme système économique et puis comme support d'art numérique a mis sous les yeux de nos journalistes, de notre rédaction, beaucoup d'images qu'ils ne regardaient pas forcément avant et de façon massive en un temps très court. Pour autant, que ce soit Fabrice Bousteau, qui est notre rédacteur en chef, ou la rédaction, n'ignorait pas du tout l'art numérique jusqu'en 2021. Par exemple, Fabrice a été le curateur d'une exposition qui s'appelle La belle vie numérique en 2017. Donc ça paraît très loin par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde des NFT. Où ils cherchaient déjà voilà, les artistes qui, en 2017, déjà exploraient le numérique. Et si vous feuilletez des numéros anciens de Beaux-Arts Magazine, vous allez voir des œuvres de Miguel Chevalier, d'Orlan, de Vera Molnar, qui sont aujourd'hui revisitées comme des OGs de l'art numérique ou du crypto-art. Bon, pas crypto-art pour tous, mais en tout cas de l'art numérique. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui était inconnu pour Beaux-Arts Magazine. Ce qui est sûr, c'est que voilà, la quantité d'images, la quantité d'artistes nouveaux qui ont émergé grâce à tout ce mouvement médiatique a mis beaucoup plus de noms sous les yeux de nos journalistes. Et après, c'est vrai qu'il y a un effet un petit peu d'avalanche et du coup de pas de résistance, mais de réaction, un peu de protection assez naturelle du monde de l'art, donc des critiques d'art, des journalistes de Beaux-Arts ou d'ailleurs, qui est, avant de parler de tout ça, essayer de comprendre, de faire le tri, de voir ce qui est effectivement important, ce que je disais au début, ce qui est significatif, de ce qui va rester comme soit non significatif, soit qui est simplement une copie, une reproduction de quelque chose qui a déjà été fait avant. Et ça demande vraiment un travail qui demande du temps. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, il n'y a pas une espèce d'acceptation en masse de toutes ces nouvelles images, tous ces nouveaux artistes qui sont parus. Parce que voilà, le monde de l'art s'est organisé depuis 150 ans avec les musées, le marché, avec toute une série de manières de fonctionner, les fameux gatekeepers qui sont beaucoup dénoncés hein, par certains dans le crypto-art, mais qui sont une manière pour le monde de l'art et du coup pour la société d'assimiler, de comprendre quel art mérite d'être défendu, quel art mérite d'être diffusé, quel art est important pour la société au moment où il est produit. Et ça, quand même, voilà, ça demande du temps, ça demande que des gens en parlent entre eux. Après, évidemment, il peut y avoir des phénomènes de copinage, d'entente, où certains artistes peuvent être présentés comme importants sans l'être. Mais voilà, moi, j'ai assez confiance dans le fait que ce système qui existe depuis un moment est malgré tout très vertueux, et c'est ce qui constitue des collections comme celle du Louvre, celle du Musée d'Orsay, celle du Centre Pompidou, qui sont considérées voilà comme des musées de très grande qualité. Et donc effectivement l'art numérique va prendre un petit peu de temps, le crypto-art, avant de pouvoir aussi être regardé avec la même attention ou la même compréhension par ceux qui avant regardaient essentiellement de l'art physique, on va dire.
Et vous parlez justement des musées, du marché de l'art traditionnel, et je me demande si l'art IRL, in real life comme on l'appelle, reste le graal, l'objectif ultime pour les crypto-artistes. Après tout, Platon disait que l'art est une copie déformée de la réalité. Et sachant que, selon lui, la réalité elle-même est une copie du monde des idées parfaites et absolues, ça ferait du monde numérique virtuel une copie du vrai au troisième degré, la copie d'une copie d'une copie. Lapin Mignon, est-ce que l'art IRL est un objectif que vous poursuivez? Est-ce que vous avez envie de vous affranchir du numérique et pourquoi? Est-ce que vous rêvez d'exposition dans un musée, par exemple?
Alors, c'est une très bonne question parce que, en fait, moi, quand je commence à travailler mon art, je travaille déjà d'une base analogue. Donc, je suis aquarelliste en fait à la base, et je fais mes aquarelles. Et après, je magnifie, j'augmente mes aquarelles à travers des outils digitaux, puisque je les modifie, je les anime. Et en fait, j'essaie en fait d'augmenter donc mon art analogue avec les outils digitaux. Et c'est assez intéressant parce que quand on parle de l'aquarelle, en fait, déjà à la base, c'est un art qui est très compliqué à montrer dans des musées. Aujourd'hui, la plupart des aquarelles, on doit pouvoir les demander pour pouvoir accéder aux archives à certains endroits où elles sont protégées, puisque l'aquarelle est plutôt fragile. Et d'un seul coup, je me rends compte qu'avec le numérique, j'ai réussi d'une certaine façon à redonner en fait un peu cette visibilité à l'aquarelle, et en plus grâce aux outils numériques à en faire une base qui me permet vraiment d'aller beaucoup plus loin. Et quand je dis beaucoup plus loin aussi, c'est que grâce aux NFT et aux crypto-art, je peux exposer cette aquarelle aussi dans le métaverse, et mes collectionneurs en fait ces NFT en fait dans leur appartement en trois dimensions dans leur monde digital. Et ça, c'est hyper intéressant, on fait partie aussi d'expositions dans le monde digital. Et oui, je pense que aussi mon grand combat, c'est bien d'être là dans le métaverse, mais c'est aussi important d'être visible aussi aux yeux de tout le monde. Et aujourd'hui, l'art se retrouve dans le métaverse, donc très visible pour tout le monde, mais se retrouve aussi toujours dans les musées et toujours dans les galeries. Et dernièrement, ma galerie Vaucelles à Paris, il y a eu cette exposition Crypto Art, Trash Art, auquel j'ai eu l'occasion de pouvoir participer. Et cette connexion avec le public de l'art est très importante. Donc, en tant que crypto-artiste, mon grand combat, évidemment, c'est de se faire reconnaître avant tout comme artiste. Et c'est pas seulement le crypto-art étant un mouvement, mais c'est avant tout de l'art. Et l'art aujourd'hui est dans les musées et dans les galeries, et maintenant aussi dans le métaverse. Donc oui, je peux pas m'affranchir de l'IRL, ni du numérique, mais je peux voir que ces deux médias, en tout cas ces deux dimensions, coexistent l'une avec l'autre, et que quelque chose maintenant qui existe dans la vie réelle existe dans le numérique et vice-versa en fait. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, et je pense que pour le monde de l'art aussi, c'est quelque chose de fantastique de se dire que voilà, on a cette visibilité dans un musée, oui, mais aussi dans le monde virtuel. Donc non, c'est pas l'un contre l'autre, c'est plutôt l'un avec l'autre.
Et peut-être si je peux ajouter quelque chose aussi par rapport à ce que vient de dire Lapin Mignon, De même que tout ce mouvement est apparu, est venu en lumière très très rapidement, le monde de l'art traditionnel, entre guillemets, évolue extrêmement rapidement. C'est-à-dire que vous avez, alors il y avait eu quelques expositions avant dans des musées ou des galeries d'art numérique, mais c'était finalement assez peu regardé, assez peu rapporté. Mais depuis que c'est venu sur le devant de la scène, il y a vraiment beaucoup de musées qui préparent des expositions, qui en font. Il y a des galeries qui en montrent de manière plus régulière. Les galeries qui avant faisaient que de l'art numérique, qui était très marginal, deviennent des galeries que les gens regardent, qui sont importantes. Dans les grandes foires d'art, maintenant, il y a des galeries qui montrent de l'art numérique, du crypto-art. Donc, en fait, les choses évoluent extrêmement rapidement. Donc, l'opposition qu'on pouvait faire au tout début entre, voilà, l'émergence de tout ce nouveau mouvement de crypto-art et le marché de l'art traditionnel, en fait, elle est déjà en train de s'effacer, de s'estomper. Et les choses bougent vraiment très rapidement.
Donc, on dirait que l'art numérique a réussi à s'implanter directement dans le marché de l'art traditionnel, en fin de compte.
Il est en train de le faire, en tout cas.
Ouais. D'accord. Et Fanny, vous accompagnez également les artistes désireux de poursuivre une carrière dans les NFT, en plus de vos activités de conseil. Vous avez d'ailleurs vous-même lancé la carrière de Lapin Mignon en la guidant vers le crypto-art. Quels sont les parcours types de ces artistes que vous accompagnez ? Est-ce qu'ils ont suivi une formation académique ? Est-ce que ce sont plutôt des reconversions professionnelles ? Ou un investissement dans un hobby, peut-être ?
Alors, oui, Lapin Mignon est ma grande fierté. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai lancé sa carrière, mais c'est effectivement partie d'une conversation qu'on a eue sur un nouvel outil qui lui a permis d'explorer effectivement tout ce dont elle vient de parler. Alors, en termes d'artistes qui se lancent dans les NFT, c'est très, très vaste. Il y a énormément d'artistes différents. Alors, on a bien sûr essayer de catégoriser les types d'artistes qui s'intéressent et qui utilisent le format NFT. C'est toujours un petit peu dangereux de catégoriser et de classifier un mouvement qui se met en place. D'ailleurs, il y a souvent cette question qui revient sur quelle est l'esthétique du crypto-art. Et bien sûr, en fait, quand on parle du crypto-art à l'extérieur, bien sûr, de l'industrie des NFT. Souvent, ce que les gens ont en tête, d'une part, c'est l'œuvre de Beeple, parce que dans la majorité des articles, on retrouve encore ce collage qu'il a vendu en mars 2021. Alors, on se bat énormément pour qu'il y ait d'autres artistes qui soient mis en avant. Mais en plus de Beeple, en fait, quand on pense au crypto-art, Souvent, ce sont des esthétiques plutôt futuristiques, inspirées de Star Trek, de Star Wars, du glitch art qui en mode ce que j'appelle le strombinoscope, un petit peu l'effet strombinoscope. Et ça, en fait, ça vient vraiment des premiers artistes comme Beeple, Xcopy, Pac et d'autres encore, en fait, qui ont était très populaire dès le début. Et là, je pense qu'il faut revenir un petit peu à l'audience du crypto art qui était au début majoritairement des développeurs ou des gens impliqués dans la blockchain, dans le développement, donc plutôt des hommes jeunes et à qui du coup cette esthétique futuristique parlait énormément. Du coup, avec l'adoption des formats NFT et du support numérique par plus d'artistes, ça a permis de diversifier cette esthétique. Et on voit maintenant énormément de photographes qui travaillent déjà énormément sur des formats numériques à utiliser les NFT. On a des artistes numériques, donc comme Jean-Baptiste disait, les NFT c'est juste un support en fait. L'art numérique n'a pas été inventé en 2021, il a juste été rendu plus populaire. Et donc pour ces artistes numériques, pour ces artistes vidéo ou des artistes de software qui créaient déjà des œuvres numériques bien avant, ils ont effectivement eu une transition beaucoup plus facile vers ce nouveau format pour échanger et vendre leurs œuvres. Mais je pense que c'est aussi cette diversité qui a fait l'intérêt du mouvement de crypto-art et qui, pour moi, est fascinant.
Donc, comme vous le dites, Fanny, le crypto-art a été façonné par une toute petite communauté. Il devait être à peine une centaine en 2019. Et vous qui en faites partie, Lapin Mignon, comment ça se passe à l'intérieur de cette communauté? Qu'est-ce qui motive ces artistes? Est-ce qu'ils ont des revendications esthétiques ou politiques, par exemple?
En fait, c'est quand on est à l'intérieur de la communauté crypto-art, on s'aperçoit en fait qu'il y a une grande volonté il y a une grande cohésion autour du monde de la crypto et de la décentralisation. Donc il y a cette idée de refaire quelque chose un petit peu à zéro. Il y a vraiment cette idée que on peut se dédouaner et apprendre par soi-même, et c'est ce qu'on voit aussi avec Fanny, avec tous les artistes qui arrivent. C'est vraiment de pouvoir avoir, de se dire, qu'est-ce que les NFT, qu'est-ce que c'est que les smart contracts. Et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on est libre, en fait. On peut soi-même se mettre en ligne, créer sa galerie, créer son centre d'exposition dans le métaverse. J'ai plus besoin d'avoir quelqu'un qui me représente, j'ai plus besoin d'avoir une galerie pour qui me choisisse pour pouvoir être vue. Je n'ai plus besoin de rien, et si j'ai besoin de quelque chose, je demande à la communauté, tout simplement, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là, il y a énormément d'entraide, et c'est vrai que ça va, pour ceux qui sont un peu à l'extérieur, ça peut sembler un petit peu le monde un petit peu idéaliste, où on est un peu dans les idéaux, et pourtant, je peux vous assurer qu'en réalité, c'est quand même ce qui se passe, en fait, au milieu de cette communauté, avec tout ce monde qui s'entraide, et tout ce monde qui essaie, en fait, d'évoluer tous ensemble. On construit. L'idée de construire, en fait, ce nouveau monde est très fort.
Si je peux rebondir sur cette idée de Lapin Mignon, je pense que c'est quelque chose qui est pas nouveau, en fait. Si vous regardez la création de n'importe quel nouveau mouvement artistique, ce sont des périodes où vraiment les artistes se soutiennent, se collectionnent mutuellement leurs œuvres et créent cette communauté autour d'un type d'art. Et voilà, on peut faire des rapports avec le salon des refusés aussi des impressionnistes, mais vraiment, si vous regardez les artistes crypto qui étaient là au tout début, ce sont vraiment les personnes qui ont les meilleures collections, parce que ils étaient là au début, ils soutenaient les artistes qui ont commencé, qui maintenant vendent à des prix beaucoup plus élevés. Mais c'est vraiment intéressant à remettre dans le contexte de l'histoire de l'art. C'est fascinant d'être là pour la création, la mise en la construction de ce nouveau mouvement, en fait.
Et Jean-Baptiste, vous-même qui êtes collectionneur à vos heures perdues, est-ce que vous vous intéressez justement au marché des NFT et de l'art numérique?
En tant que collectionneur, pas avec la même approche que les œuvres physiques que je collectionne. J'ai acheté quelques NFT, mais plutôt pour comprendre comment ça marchait, voir comment ça se passait dans la communauté d'un artiste, une fois que j'étais rentré dans le Discord, voir comment tout ça fonctionnait. Mais je continue à acheter plutôt des œuvres d'art physique. En revanche, j'ai commencé, enfin c'est vraiment embryonnaire, mais à acheter des NFT de poésie, que je trouve une application assez géniale de cette technologie. Parce que bon, on se dit toujours qu'on ne voit pas comment on peut vivre de la poésie, parce que les recueils, quand ils sont édités, sont écoulés à quelques centaines d'exemplaires. Mais là, j'ai l'impression qu'avec les NFT et certaines technologies d'écriture qui utilisent l'intelligence artificielle, il y a des poètes qui, du coup, peuvent vivre de leur art de manière beaucoup plus importante que ce qu'il y avait avant. Et donc ça, voilà, j'ai commencé un petit peu à collectionner ça, mais c'est vraiment embryonnaire. Ça. Je reste quand même encore un collectionneur d'art physique.
Il y a le JDN qui m'a interloqué la semaine dernière et qui titrait « Ça y est, les NFT servent enfin à quelque chose ». Et la journaliste se réjouissait de la mort programmée du crypto-art au profit de ce qu'elle appelait des NFT utilitaires, comme les solutions d'authentification en ligne, par exemple. Et ce titre posait finalement la question de l'utilité de l'art, qui est vieille comme Platon. L'art doit-il avoir un but, une fonction sociale, ou la recherche du beau est-elle suffisante en soi? Alors Jean-Baptiste, si l'art numérique ne vise pas le beau, est-ce qu'on peut dire qu'il est inutile, qu'il gâche les ressources de la blockchain? Qu'est-ce que vous pensez de ce débat?
Il y a deux questions en une, je dirais. Il y a la question de est-ce que les NFT sont utiles et est-ce que l'art est utile. Pour l'art, pour moi, il n'y a pas de débat. Enfin, la question ne se pose pas une seule seconde. On n'a pas d'exemple de sociétés qui vivent heureuses sans art. Et donc l'art est plus qu'utile, il est vraiment vital pour une société. Et donc le crypto-art aussi fait partie de l'art, et donc il est tout aussi important pour notre société. Donc pour cette question-là, pour moi, il n'y a pas tellement de débat. Après, pour les NFT, ils sont utiles en fait depuis le début, même quand ils, entre guillemets, ne servaient que aux crypto-artistes, pour répondre un peu à ce que disait cet article du JDN. Parce que à partir du moment où ils ont permis à des artistes ou à des poètes, comme je donnais tout à l'heure comme exemple, de vivre de leur art ou de commencer à tirer des revenus de leur art, ils ont été immédiatement utiles. Et je dirais presque ça suffit comme utilité. Après, évidemment, il y a un champ absolument immense dans le domaine créatif et même dans tous les domaines de l'économie d'utilisation des NFT. Mais je pense qu'ils sont utiles depuis le début, oui, absolument.
Le philosophe Walter Benjamin, dans son livre « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique », est très très critique à l'égard de l'art contemporain. Celui-ci aurait perdu son aura, comme il l'appelle, c'est-à-dire son caractère presque sacré. Le numérique et la multiplication des images, qui sera d'ailleurs encore accélérée avec le métavers, rend la rencontre avec l'œuvre d'art assez banale finalement. Nous voyons de l'art partout maintenant, même sur Twitter, des reproductions d'art, des pictogrammes un peu partout. Alors Fanny, comment cette multiplication des œuvres et des rencontres avec elles change notre rapport à l'art? Est-ce que vous diriez que l'art numérique manque d'aura?
Alors je pense que c'est... Si on revient à la période où ça a été posé comme... Enfin, la définition de l'aura de l'art, mais quand même une version très fermée en fait, qui veut garder l'art pour une élite et vraiment un petit peu à l'opposé de la démocratisation de l'art, de l'accès à tout le monde de cet art. Alors après, c'est une question, je dirais, un petit peu qui revient à la question de combien de temps on passe sur nos ordinateurs, sur nos téléphones, par rapport au temps qu'on passe dans un musée, dans une galerie, et de se dire qu'est-ce qui est mieux ? Est-ce que c'est mieux d'y avoir accès de manière plus globale, plus immédiate par le téléphone, Twitter et les sites internet, ou de se garder et de rater un petit peu une énorme partie de la population qui n'ira pas dans une galerie ou un musée. Et donc dans ce cas-là, même une œuvre qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, si elle raconte une histoire, si elle a un concept derrière, si on s'y intéresse, ça, c'est ça l'utilité de l'art, c'est dans l'histoire et les émotions que cette œuvre apporte, et ça, ça n'a pas du tout changé avec l'avènement de la blockchain ou des NFT.
Et Lapin Mignon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces articles comme celui du JDN qui écrivent globalement dans leur ligne que le crypto-art ne sert à rien et qui mobilise inutilement les ressources de la blockchain? Est-ce que c'est... Comment vous percevez ces discours-là? Comment vous les ressentez? Comme des attaques, peut-être, ou...
Non, parce que je pense que dans toute l'histoire de l'art, de toute façon, on a toujours entendu que... Enfin, c'est assez... Voilà, c'est... Et au contraire, il y a des fois, je me dis que ça permet aux gens de réfléchir et de provoquer quelque chose aussi. Donc, non. Après, il y a eu tout le mouvement, parce que j'aime beaucoup parler du mouvement du trash art qui a été un peu initié par Rob Ness en ce moment, qui a quelques soucis en ce moment avec les poubelles Twitter, mais qui voilà, qui a créé en fait ce un peu un mouvement en fait autour de ça, parce que tout le monde disait voilà, le crypto art, donc on parle dans les années 2020, il disait voilà, le crypto art c'est pas de l'art, ça ressemble à rien, et donc lui il avait fait cette poubelle qu'il avait un peu photo moché, donc qui est passé par un logiciel en fait, et qui avait fait un glitch, voilà, avec beaucoup de glitch, beaucoup de couleurs autour de cette poubelle, et qui, donc c'était le 64 de Gallon Totter. Et en fait, il y a beaucoup de crypto-artistes qui ont dit, c'est vrai, on fait tout ce qu'on fait, c'est vrai, c'est de l'art poubelle. En fait, on l'a un peu pris à contre-pied. Et c'est un des plus gros mouvements dans le crypto-art à date, en fait, de ce mouvement de centaines d'artistes qui se sont dit, c'est vrai, voilà, on va prendre une photo, une poubelle, et on va la photoshopper et on va l'animer. Et en fait, il y a eu... Et tout le monde a pris avec vraiment un grand sourire, et on s'est dit voilà, on va prouver qu'en effet vous avez peut-être raison, voilà ce qu'on va faire, et ça a créé un mouvement, une espèce de, ça a solidifié un petit peu le cœur en fait de certains d'un mouvement du cryptoart, donc autour du trash art. Et il y a eu énormément depuis en fait de cet art hyper facile, parce que c'était ce qu'on appelait un peu le l'art un peu voilà, l'art facile, l'art trash art, et vraiment un contre-pied de voilà, en fait voilà, c'est pas de l'art. Et ça a beaucoup fait penser à la fontaine de Duchamp, en fait. On est vraiment dans quelque chose voilà, vraiment similaire 100 ans après, en fait. On se pose la question, qu'est-ce que l'art? Pourquoi vous jugez qu'on ne fait pas de l'art? Et au final, quand on regarde le cryptoart, c'est quand même compliqué de se dire qu'il y a un seul, comme l'a dit Fanny tout à l'heure, il n'y a pas une seule esthétique, il n'y a pas, le cryptoart, si on réfléchit bien, c'est juste, entre guillemets, c'est de l'art qu'on va protéger et qu'on va mettre sur la blockchain. Donc, c'est ce qui permet de donner une identité, en fait, d'un seul coup, à de l'art numérique ou à de l'art numérisé. Et donc, c'est pas juste un seul mouvement, c'est pas simplement du Photoshop, ça peut être tellement de choses. Et Jean-Baptiste disait, ça peut être de la poésie, ça peut être, voilà, de la photographie, ça peut être de la 3D, ça peut être... Donc dire que le crypto art c'est pas de l'art, je pense que c'est vraiment regarder la surface, pas vraiment s'en intéresser, et puis au final bah peut-être de donner à réfléchir et peut-être se dire pas que en fait bah ouais, je pense que voilà, regarder un peu plus près et regarder, il y a vraiment des artistes merveilleux qui font bouger et qui font réfléchir sur qu'est-ce que l'art, et je pense qu'on est en plein dedans en fait, donc c'est intéressant. Donc non, pas vexé, mais au contraire, contente qu'on en parle et contente que finalement on ait ce coup de projecteur quand même, et que voilà, on en discute. Et je pense que on est là, on en discute, donc finalement ça a fonctionné.
Comme Lapin Mignon le rappelle avec l'exemple de Marcel Duchamp et la fontaine de Marcel Duchamp, le cryptoart réactive finalement des vieux débats sur l'esthétique. Et Jean-Baptiste, si vous deviez conclure votre dissertation, diriez-vous que le numérique est beau? Le beau peut-il être virtuel, ou au contraire a-t-il besoin d'être réel pour être éprouvé? Et puis d'ailleurs, est-ce que le numérique se soucie encore du beau? Ou est-ce qu'il cherche d'autres critères d'appréciation?
C'est une grande conclusion que vous me demandez. Il y a une phrase qu'on aime beaucoup chez Beaudin Magazine et qui dit bien aussi la manière dont on perçoit le rôle de l'art dans la société. C'est une phrase d'un artiste qui s'appelle Robert Filliou, qui est un artiste de la deuxième partie du XXe siècle, et qui a dit « L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. » Alors, ce qui nous plonge tous dans des abîmes de réflexion, mais ça dit bien la manière dont nous, on le voit, et on pourrait faire un jeu en appliquant ça au numérique, en disant que l'art, c'est ce qui rend le numérique plus intéressant que l'art. Ça répond aux questions de l'utilité, ça répond à la question de « est-ce que le numérique peut être beau ?» En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, le numérique, il peut être émouvant, il est significatif, ça c'est sûr, l'art numérique est significatif, il dit des choses de notre société, et parfois certains le trouvent beau, voilà, et tant mieux pour eux, d'autres le trouvent pas beau, mais simplement important, et tant mieux pour eux. Voilà, c'est une manière de conclure cette dissertation qu'on a engagée ensemble.
Est-ce que vous avez d'autres éléments à apporter, Fanny ou Lapin Mignon ?
Moi, je reprendrai la phrase d'une artiste célèbre, Lapin Mignon, je pense qu'on est en plein dedans. et je pense que c'est la valeur de tout ça, c'est de le vivre au jour le jour et de voir où est-ce qu'on va aller.
Et comme pour toute dissertation, on se rend compte à la fin que la question de départ n'était pas forcément la bonne. Je vous remercie à toutes et tous de vous être portés au jeu et d'avoir exploré avec moi les tréfonds de l'art numérique. Et comme dirait Hegel, ce n'est pas la réponse qui compte, qui de toute façon n'est jamais vraiment définitive, mais c'est le cheminement intellectuel parcouru.